Le débat du jour. Adrien Delgrange.
Il est 18h30 à Paris, 19h30 en Syrie. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour le débat du jour.
RFI.
C'est une question délicate qui se pose au gouvernement français. Faut-il rapatrier les enfants de djihadistes français retenus en Syrie ? La France répond au cas par cas, pour reprendre l'expression de l'exécutif. Pourtant, de nombreuses voix s'élèvent, ONG, intellectuels, politiques de tous bords, psychiatres, pour que ces enfants qui n'ont rien demandé, qui sont plus victimes que coupables des erreurs de leurs parents, puissent retrouver la France le plus vite possible. Avec cette question sous-jacente, un enfant qui rentre de zone de guerre représente-t-il un risque pour la France ? C'est ce que nous allons aborder dans la prochaine demi-heure en direct de Paris avec trois invités.
RFI.
Marie Dauzé, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Avocate au barreau de Paris, avocate de parents dont les enfants sont retenus en Syrie. Pierre Morel, à l'huissier, bonsoir. Vous êtes député UDI du département de la Lozère, membre de la commission des lois et vous avez signé un appel pour demander le rapatriement de ces enfants. Et puis le point de vue d'un psychiatre autour de cette table, Nicolas Bosque, bonsoir.
Bonsoir.
Chef de clinique au service de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital Avicenne de Bobigny, APHP. Et vous suivez beaucoup d'enfants de retour de zone de guerre. Merci donc à tous les trois d'avoir accepté cette invitation. Première question avec vous, Marie Dauzé. En tant qu'avocate, il y a urgence à rapatrier ces enfants de djihadistes ?
Il y a une urgence humanitaire et sécuritaire. Le mois dernier, Daesh a libéré des centaines de djihadistes qui étaient emprisonnés dans la prison d'Assaké. Il y a quelques semaines encore, les températures étaient à moins 10 degrés la nuit. Ces enfants dorment sous des tentes avec leur mère. Certains de ces enfants sont dans des camps depuis 5 ans. Ils entament là leur cinquième année dans les camps. Ils sont rentrés à l'âge de 6 mois. Ils ont aujourd'hui 5 ans. Et certains de ces enfants sont nés dans ces camps. Donc il y a une urgence humanitaire et sécuritaire à sortir ces enfants de ce qu'on appelle, en tout cas de ce qu'appellent les ONG. Les ONG les qualifient de Guantanamo pour enfants.
Guantanamo pour enfants, vous partagez cette idée, Pierre Morel, à l'huissier ?
Oui, je partage. En tant que parlementaire, nous sommes dans un état de droit. La France a signé un certain nombre de conventions sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Et la France ne respecte pas les engagements internationaux qu'elle a pris. Et donc, avec un certain nombre de collègues, nous avons eu l'occasion de le dire au ministre des Affaires étrangères, au Premier ministre, et également à tous les conseillers du président de la République. Pourquoi d'autres pays le font, rapatrient ? Pourquoi la France ne le fait pas ?
D'autres pays européens, en l'occurrence.
Oui. Et aujourd'hui, en France, on trie, selon des critères d'ailleurs qu'on ne comprend pas. Donc c'est inacceptable.
Vous portez l'affaire en justice, hein, Marie Dauzé.
En fait, le refus de rapatrier, c'est un acte de gouvernement insusceptible de recours devant les juridictions internes. Donc nous avons saisi le Comité international des droits de l'enfant, puisque la France viole la Convention internationale des droits de l'enfant, le Comité contre la torture des Nations unies et la Cour européenne des droits de l'homme, qui a saisi la Grande Chambre. Nous avons plaidé, mon confrère Laurent Petitier et moi, le 29 septembre dernier, et nous attendons avec impatience la décision de la Cour européenne, sachant que, en laissant ses enfants dans ces camps, alors qu'elle a les moyens de les sauver et de les rapatrier, la France les expose directement à des traitements inhumains et dégradants. D'ailleurs, sur le fond, finalement, elle ne le conteste pas. Ce qu'elle dit, c'est, vous comprenez, ces opérations sont très difficiles à mener. Mais attendez, pour la France seulement ? Parce que les autres pays européens n'ont pas de difficulté, eux, à rapatrier.
Au nom de la France, justement, quelle est la stratégie de l'exécutif ? Je vous propose d'écouter le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, invité de France 5 la semaine dernière.
Ces enfants-là n'ont rien demandé. Ils sont partis de fait de la responsabilité de leurs parents, père et mère. Père et mère. Dans le terrorisme, ils sont partis rejoindre Daesh, dans les combats. Ils ont connu la guerre. Les derniers, c'était à Barouz, c'était en 2019, donc c'est pas si vieux. Et maintenant, ils connaissent les camps, ils n'ont rien demandé. Donc il faut tout faire pour les ramener.
En quoi réfutez-vous les arguments du ministre des Affaires étrangères, Marie Dauzé ?
Non, mais on atteint quand même un degré de cynisme assez inacceptable. Là, il faut tout faire pour les ramener. Nous ne faisons rien pour les ramener.
Il y en a déjà qui ont été rapatriés.
Il y a 35 enfants qui ont été rapatriés depuis 2019. Imaginez-vous, en 2021, 97 femmes et enfants européens sont rentrés chez eux. Sur ces 97 femmes et enfants européens, seuls 7 enfants français. Depuis 13 mois, la France n'a rapatrié personne. Depuis 2019, plus de 1800 femmes et enfants étrangers ont été rapatriés. Donc, très sincèrement, ce discours est inaudible.
Pourquoi la France tarde-t-elle à rapatrier ces enfants, d'après vous, monsieur le député?
Moi, je crois qu'il y a deux conceptions. Il y a celle que le ministère des Affaires étrangères plaide. J'ai vu au plus haut niveau un certain nombre de responsables et des directeurs de cabinet. On me dit, vous comprenez, aller sur ce terrain, en Syrie, dans ces camps, c'est dangereux pour la défense. C'est-à-dire que le ministère de la Défense dit, c'est tellement dangereux qu'on ne peut pas y aller.
Or, d'autres pays le font. L'opération elle-même de rapatriement est dangereuse.
Voilà, on nous explique ça. Mais c'est absolument inaudible.
Pourquoi ?
Enfin, que la France, avec les moyens que l'on a, ne puisse pas affréter un ou deux avions militaires pour récupérer 200 enfants et leur mère, c'est incroyable. C'est totalement incroyable.
Marie Dosé.
Non, mais c'est d'autant plus, encore une fois, que les autres pays le font et sans difficulté aucune. Je rappelle quand même qu'alors même que la situation sécuritaire n'a jamais été aussi terrible depuis quelques semaines, des enfants et leur mère néerlandais sont rentrés chez eux. Des enfants et leur mère suédois sont rentrés chez eux pendant que Daesh est en train de libérer des djihadistes dans la prison d'Assaké. Donc tout ceci est un leurre et en réalité, on est en train de frôler le mensonge d'État. Parce que ce discours qui nous est asséné depuis 3, 4 ou 5 ans ne résiste pas à l'épreuve des faits.
En fait, il y a une raison. C'est qu'en fait, que ce soit l'Élysée ou Matignon, on considère, après des sondages d'opinion publique, que ce n'est pas un sujet.
Autrement dit, ce sera un
risque. Que les Français, que le peuple français, que les habitants en France considèrent qu'ils sont là-bas, laissez-les là-bas. Oui. Enfin, ça, c'est juste pas entendable. Ce sont des ressortissants français.
Ils ont la nationalité française ?
Oui.
Bien
et
sûr.
Donc c'est à la France d'assumer.
Ce sont des enfants et des femmes françaises. Et l'opinion publique, elle avance. Moi, je veux juste quand même préciser là-dessus. Parce que l'opinion publique, il ne faut pas la figer à un instant T. Moi, vous savez, au tout début...
Il faut l'informer.
Non, mais voilà, il faut l'informer, il faut faire œuvre de pédagogie. Au tout début, quand je prenais la parole sur ces sujets, 2018-2019, je peux vous assurer qu'on avait 5, 6, 7 menaces de mort au cabinet le lendemain matin. Aujourd'hui, j'ai 10 demandes de stage au cabinet. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi tout un pan de la population qui est outré par ce refus de la France de sauver les enfants.
Je m'adresse au docteur ici présent, Nicolas Bosque, sur le rapatriement de ces enfants. En quoi, d'un point de vue psychologique, voire psychiatrique, vous défendez l'idée de l'importance qu'ils retrouvent le territoire national le plus rapidement possible ?
Nous, c'est des enfants qu'on voit... arriver en France avec des tableaux cliniques qui sont quand même souvent assez marqués. Donc c'est des enfants soit qui sont nés sur zone, sur les territoires de Daesh, ou qui sont nés dans les camps. Donc nous, la plupart des enfants qu'on reçoit sont plutôt jeunes. On reçoit des enfants, la moitié, au moins de 6 ans. Donc la plupart du temps, ils n'ont comme souvenir que des souvenirs de guerre, des souvenirs de traumatisme, des souvenirs de bombardement. Des souvenirs de faim, de froid, de maladie, d'annonces de décès, des choses comme ça. Après, nous, quand on les voit arriver, au niveau psychopathologique, ils ont très, très souvent, alors pas tout le temps, et c'est aussi ça la grande difficulté de notre travail, c'est qu'ils peuvent avoir des signes très bruyants, très explicites, de trauma, donc classiquement des troubles de l'humeur, des gros troubles du sommeil, de l'énurésie, de l'agressivité, de ce qu'on appelle de l'hypervigilance, c'est-à-dire des enfants qui vont surréagir dès qu'ils vont entendre un son, dès qu'il va avoir quelque chose d'un peu d'imprévisible.
Qui peut leur rappeler voilà. Des sons de guerre.
Donc, voilà, on sent qu'ils sont très tendus intérieurement. Mais on a aussi d'autres enfants qui viennent avec un état qu'on appelle... entre guillemets, faussement rassurant. Donc des enfants très lisses, qui vont avoir un discours rassurant, plutôt souriant dans le contact. Et en fait, on va se rendre compte que souvent, les tableaux cliniques vont évoluer. Et on va les recevoir, ils vont apparaître comme ça, assez, assez préservés. Et on va se rendre compte, au fur et à mesure, de leur temps passé en France, dans les familles d'accueil, avec les visites des parloirs, enfin des événements de vie, qu'il va avoir des symptômes qui peuvent apparaître. Donc nous, on voit quand même un état qui est très, très lié aux conditions de détention. Et
si vous permettez, à l'âge. puisque si j'ai bien compris, tout se joue aussi selon l'âge auquel ils reviennent en France. Là, vous parlez d'enfants de moins de 6 ans, vous confirmez ?
Oui. Alors nous, on a des enfants, bien sûr que ce n'est pas les mêmes symptômes en fonction des âges. Mais par exemple, on a aussi des enfants qui sont plus âgés. Donc nous, comme disait Marie Dosé, les premiers enfants qui sont arrivés, ils datent, enfin nous, on les suit depuis mai 2017. Donc ça fait déjà presque 5 ans.
Est-ce qu'on peut dire qu'on a assez de recul, justement ?
Ah bah oui, 5 ans, c'est quand même beaucoup. Et des enfants qui arrivaient à 3-4 ans en mai 2017, et ils en ont presque 10 ans aujourd'hui. Donc on a vu un petit peu comment ils ont grandi par rapport au développement normal de l'enfant et par rapport à leurs symptômes. Et on voit que c'est souvent des développements qui sont compliqués et des enfants qui demandent beaucoup, beaucoup de prise en charge, beaucoup de soins, beaucoup d'aide de professionnels, que ce soit des médecins, des professionnels de l'enfance, des professionnels de la justice, des professionnels de l'éducation nationale. Donc, c'est des enfants qui ont besoin de beaucoup d'aide.
Et des enfants qui sont placés en famille d'accueil ?
Des enfants qui sont placés en famille d'accueil d'emblée, dès qu'ils arrivent sur le territoire. Ils sont pris en charge par un hôpital du 93, parce que le 93 est la zone de juridiction de Charles de Gaulle. Donc, en fait, c'est le 93 qui s'occupe de ces enfants la plupart du temps.
À l'aéroport.
Voilà, ouais. Donc, ils sont suivis au niveau somatique, parce qu'ils arrivent dans des conditions somatiques. Ils sont très, très altérés, avec des gros troubles gastro-intestinaux, des problèmes de peau, des états dentaires vraiment très, très abîmés. Ils ne sont pas vaccinés. Donc, il y a toute une partie somatique qui est importante. Et l'hôpital Avicenne fait une évaluation de leur état psychologique dans les 3 premiers mois de leur arrivée.
Et pour leur permettre la meilleure des arrivées possibles, c'est sous couvert d'anonymat que ces enfants sont accueillis ?
Alors, nous, non. Nous, ils ne sont pas du tout anonymes. Nous, on connaît leur nom. On a beaucoup de mal à connaître leur histoire parce que leur histoire, déjà, on a quelques informations qui arrivent par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Mais bon, c'est des informations qui sont très parcellaires. Eux, ils n'ont pas forcément tout. Et les maires nous donnent des informations en fonction de leurs souhaits. Mais on a beaucoup de mal à connaître leur trajectoire. Et ça, c'est difficile pour la prise en charge ensuite parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils ont vécu, ces enfants.
Et vous ne leur cachez pas le passé de leurs parents ?
On ne le cache pas. Souvent, ils sont au courant. Dans beaucoup de cas, le père est présumé décédé, présumé mort, ou incarcéré en Irak ou en Syrie, parfois condamné à mort. Et la mère est soit incarcérée d'emblée en France, ou incarcérée là-bas, ou présumée morte. Mais la plupart du temps, ils le savent. Par contre, c'est souvent assez difficile à aborder. Juste une petite chose, c'est des enfants qui arrivent, qui sont assez traumatisés et qui sont surtout pris en charge par une multitude de personnes. Et ça peut être difficile pour eux de voir autant d'intervenants. Donc nous, on prend le temps de créer une relation pour qu'ils puissent se livrer progressivement. On n'est pas des policiers, on n'est pas les services de renseignement et on ne pose pas des questions directement sur les conditions de mort de leurs parents si c'est le cas.
Et enfin, pour tordre ces idées reçues, en quoi ces enfants ne sont pas un danger pour la France lorsqu'ils reviennent ici ?
Ces enfants sont des victimes. Ce sont des enfants qui sont abîmés, ce sont des enfants qui souffrent, qui ont eu des trajectoires de vie catastrophiques, qui arrivent, qui n'ont qu'un besoin naturel, de développement naturel, de développement inné, d'être un enfant et de retrouver un développement d'enfant normal, c'est-à-dire pouvoir avoir des amis parce que la plupart du temps, dans les camps, c'est très compliqué. Ils n'avaient pas de jouets, ils ne sont jamais allés à l'école. Moi, j'ai une petite fille de 8 ans qui ne sait pas écrire son nom parce qu'elle n'est jamais allée à l'école. Donc, ils ont des troubles du langage, ils ont des retards des acquisitions scolaires extrêmement importants. Ces enfants-là, tout ce qu'ils demandent, c'est qu'on les remette sur les rails. Ouais. Si on les remet sur les rails, ils se développent. Si on ne les remet pas sur les rails, par contre, on va les stigmatiser, on les décale complètement par rapport aux enfants de leur âge. Et là, il y a un vrai danger, là.
Des enfants qui, par définition, sont coupés du lien familial lorsqu'ils rentrent en France, Marie Dosé.
Alors, lorsqu'ils rentrent en France, il faut bien séparer deux choses. Hein. Ils rentrent en France lorsque les mamans se sont évadées des camps ou ont fui Daesh avec leurs enfants elles arrivent en Turquie et à partir de là, le protocole dit le protocole Cazeneuf s'applique et elles sont expulsées vers la France. Elles sont dans l'avion et là, elles expliquent à leur enfant qu'elles vont partir en prison et que lui va partir d'abord en famille d'accueil et ensuite il verra sa famille. Mais ce qui est important, c'est que l'enfant va rencontrer sa mère au parloir et qu'il va pouvoir construire cette histoire ou en tout cas, il n'aura pas une rupture de lien. C'est absolument impossible. Il faut quand même imaginer que ces enfants ne connaissent que leur mère. Leur mère, c'est celle qui les a protégés, c'est celle avec qui ils dorment dans les camps, c'est celle avec qui ils passent 24 heures sur 24 avec elle, et c'est la seule source d'affection, leur mère. Je veux juste préciser une chose par rapport à ce que vous venez de dire. Les enfants, ces enfants, ces 200 enfants qu'ils restent dans ces camps, lorsqu'ils sont rentrés dans ces camps, ils avaient tous peu ou prou moins de 6 ans. Plus des deux tiers avaient moins de 6 ans. Certains y sont nés. Alors cette expression « les enfants de Daesh », ça me pose toujours une difficulté parce que ce sont les enfants des camps. Leur histoire de la Syrie, c'est de ces 200 enfants qui restent, c'est l'histoire des camps et c'est donc l'histoire d'une France qui les abandonne. Je veux juste qu'on se pose cette question. Qu'est-ce qu'on va leur raconter quand ils auront 15 ans? Comment on va leur expliquer que leur pays a fait le choix de les laisser périr et mourir avec leur mère dans ces camps tout au long de leur enfance. Enfin, je ne sais pas comment on peut s'y prendre mieux pour créer de la défiance vis-à-vis de son propre pays.
Pierre Morel à l'huissier.
Quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, j'étais seul. C'était vraiment l'océan. Personne ne voulait s'en occuper.
Je rappelle que vous êtes député de la Lozère.
Oui, c'est un petit département rural. Maintenant, il y a une prise en considération d'un certain nombre de parlementaires. Je ne suis plus tout seul. Et quand je leur parle des enfants, c'est un sujet qui accroche. Imaginez un enfant qui a 6 mois, 1 an, et entre guillemets récupérable. Mais plus il reste dans les camps, plus c'est difficile. Plus les traumatismes sont graves. Et si un certain nombre de personnes mal intentionnées leur expliquent la situation dans laquelle ils se trouvent et que leur pays d'origine ne s'en occupe pas, on en fait des bombes à retardement. C'est ça le problème. Et c'est là où je ne comprends pas que le gouvernement français ne soit pas sensible à ça. Attention à ce qui peut se passer dans 5-6 ans avec des enfants qui auront été peut-être manipulés complètement ensuite. C'est très grave.
Marie Dosé.
Deux cas concrets. J'ai demandé à 42 reprises le rapatriement d'une mère et de sa fille. Cette femme était très très gravement malade. Je suis allée à l'Élysée à plusieurs reprises, pour dire « si vous ne la rapatriez pas, elle va mourir ». 42 demandes de rapatriement sanitaire. Elle est décédée le 14 décembre dernier. Elle est rentrée dans les camps avec sa petite-fille. Elle avait 25 ans, sa petite-fille avait 3 ans. Sa petite-fille a regardé sa mère agoniser pendant 3 ans sous la même tente qu'elle. Depuis le 14 décembre, elle est seule dans le camp avec sa mère enterrée à quelques mètres de là où elle a vécu avec elle dans les pires conditions. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et le pire de tout, c'est que cette petite fille que la France a fabriquée comme orpheline, parce que c'est ça, c'est quand même la France qui a fabriqué une orpheline, cette petite fille, elle est seule dans un camp et elle voit partir ses copains suédois et néerlandais avec leur mère depuis 2 mois. Elle reste là-bas. Deuxième histoire, et j'en ai fini, mais quand même, je demande depuis 3 ans le rapatriement d'une orpheline qui, à l'époque, avait 15 ans à peine. Ses parents sont morts, tous ses frères sont morts. Elle est seule dans le camp depuis 2019, seule et livrée à elle-même. Depuis 3 ans, je demande son rapatriement. Et aujourd'hui, la réponse est « Non, maître, on ne peut pas la rapatrier. Elle a 18 ans, ça n'est plus une enfant. » Mais quelle honte!
Vous écoutez Radio France Internationale en direct de Paris, le débat du jour. Faut-il rapatrier les enfants de djihadistes français retenus en Syrie? Je vous propose d'écouter à présent le témoignage d'une maman d'enfants de djihadistes, une des mères jeunes françaises, partie seule en Syrie. Elle a 2 enfants sous l'État islamique. Elle rejoint d'abord la Turquie et est ainsi expulsée en France pour y être jugée. Sous couvert d'anonymat, elle témoigne au micro d'Oriane Verdier.
J'estime qu'on est coupable de ce qui arrive à ces enfants. C'est à cause de nous qu'ils sont nés là-bas. C'est à cause de nous. On ne peut pas se taire et laisser l'opinion publique ou les autres diaboliser ces enfants et les condamner alors que parfois ce sont que des nourrissons. Je comprends l'inquiétude parce que moi je peux en témoigner, ça, oui ça existe, les camps d'entraînement pour les enfants, Mais il faut savoir que c'était à partir de 10, 12, 13 ans. La plupart des enfants qui font peur aujourd'hui, ce sont des enfants qui ont moins de 5 ans.
Extrait d'un grand reportage à retrouver sur le site de Radio France Internationale, signé Oriane Verdier. Le témoignage de cette maman qui vous fait réagir, professeur Nicolas Bosque.
Je ne suis pas professeur.
Docteur, chef de clinique et psychiatre.
Voilà. Non, mais en fait, ces enfants, ce qu'on entend là, et ce qui est très important à comprendre, c'est que ces enfants créent chez l'autre des choses très massives, donc à l'opinion publique, chez les médecins, chez toutes les personnes qui vont prendre en charge ces enfants. Il va avoir des émotions. Alors nous, on l'appelle dans notre travail, on l'appelle le contre-transfert. Mais ça va être des émotions.
Qui veut dire ?
Qui veut dire, en fait, toutes les réactions, toutes les émotions du thérapeute face à son patient. Donc, on travaille avec ça. Donc, on essaie de le percevoir et de travailler avec ça. Mais ces enfants créent beaucoup d'imaginaire. Donc, il y a beaucoup de fantasmes. Il y a des émotions très massives. Il y a de la haine, il y a de la peur, il y a de la colère, il y a de la tristesse. Mais très, très massives. Et donc, il y a une espèce de fascination. Il peut avoir de la fascination, il peut avoir du rejet. Et des choses qui ne sont pas du tout rationnelles, en fait. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui avec l'opinion publique qui a peur, parce que quand on parle de bombe à retardement, moi, ce terme me hérisse, parce que c'est inadmissible d'enfermer un enfant dans un terme si grave. Enfin, là, on accuse un enfant d'être une bombe. Un enfant qui a 3 ans, qui a 4 ans, hein. Donc c'est juste dramatique d'accuser un enfant comme ça. Mais ça montre aussi que les gens ont peur. Et en fait, moi, ce que j'aimerais vraiment faire passer comme message aujourd'hui, c'est que ce sont des enfants, mais des petits-enfants blessés, des petits-enfants tristes. Mais ce sont des enfants qui sont en demande de contact avec les adultes, qui sont en demande d'apprendre, qui sont coopérants, qui ont souvent une certaine maturité sur beaucoup de sujets, et qui ont envie d'apprendre, qui veulent profiter de ce dont ils peuvent avoir accès maintenant, qui découvrent les jouets, qui découvrent ce qu'ils appellent maintenant des choses. Avant, ils disaient, mais ça, c'est haram. C'est-à-dire que la musique, c'était haram. Le maquillage, c'était haram. Oui.
Musulmane, en l'occurrence.
Oui. De danser, c'était haram. Et maintenant, nous, on voit après quelques semaines qu'en fait, ils dansent, et ça s'intègre à leur religion. Et ils se rendent compte que finalement, il y a plein de choses qu'on peut faire. On ne leur demande pas de tirer un trait sur leur religion, évidemment. Mais finalement, ce que je veux faire passer, c'est que ce sont des enfants dont il ne faut pas avoir peur. C'est plutôt des enfants vers qui il faut aller pour les aider, pour les sortir de là où ils sont.
Comment expliquez-vous, Pierre Morel à Luissy, en tant que parlementaire français, que les autres pays européens, l'Allemagne, la Suède, le Danemark, l'Italie, la Belgique, soient entre guillemets en avance sur la France concernant le rapatriement de ces enfants ?
Ce que je vous ai dit, je pense que c'est une position gouvernementale et de l'Élysée de fermer les yeux sur cette situation-là, parce qu'ils considèrent que l'opinion publique est très hostile, et donc, on ne les rapatrie pas.
Oui, mais les opinions publiques sont plus prou ou peu les mêmes dans les pays voisins.
Peut-être pas de la même manière. Et puis, je pense que si la France se demande, une fois qu'on les rapatrie, les mères et les enfants, on en fait quoi ? Et comme on n'a pas de structure très spécifique sur la radicalisation, certains disent le système pénitentiaire n'est pas adapté.
Pour être précis, les mamans qui rentrent sont d'abord jugées.
Elles sont incarcérées. Mais peut-être la réponse pénitentiaire n'est pas celle qu'il faut en France. Toujours, je pense que c'est un refus de prendre en considération la chose.
Et avoir une réponse européenne sur la question ?
Ça serait une bonne chose, mais ce n'est pas le cas pour l'instant.
Marie Dosé.
Oui, moi je tiens quand même à rappeler que même l'administration pénitentiaire a officiellement déclaré qu'elle était prête à prendre en charge ces 80 mères, hein. Rappelons qu'il y a à peu près 75 000 détenus en France, je crois, ces 80 mères.
Retenus dans des camps, en prison. De la Syrie.
J'étais ce matin à Rennes, au quartier de la prise en charge de la radicalisation, ou de la prévention de la radicalisation, à la maison d'arrêt des femmes de Rennes. Le travail qui est fait est considérable. Enfin, je veux dire, des éducateurs, des psychologues, des référents cultuels. Il y a un travail extraordinaire de fait. Ce que je suis en train de dire, moi, c'est que c'est un argument de dire, vous comprenez, en France, les prisons sont des foyers de radicalisation. On parle du foyer de radicalisation du camp Roge et du camp Dalol. Non, mais on plaisante. Est-ce que vous imaginez qu'aujourd'hui, les femmes les plus radicalisées brûlent les tentes de celles qui demandent leur rapatriement pour leur faire payer justement leur prise à distance avec cette idéologie-là. Enfin, qu'est-ce qu'on raconte ? Et puis, il y a une chose que je ne comprends pas. Les autorités qui les détiennent, les Kurdes, appellent les pays et tous les pays à rapatrier ces femmes et leurs enfants depuis des années. Et ces mères, elles ne peuvent être jugées qu'en France. Elles ne sont judiciarisées qu'en France. Les Kurdes rappellent qu'ils ne peuvent pas et ne veulent pas les juger. Le Rojava, ce n'est pas un État. Donc il y a des juges antiterroristes qui sont payés par les impôts de tout le monde et qui travaillent des heures chaque jour, depuis des années, depuis 2013-2014, sur ces femmes, pour finalement dire « Non, finalement, on ne veut pas les juger ici ». Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Lorsque Jean-Yves Le Drian nous assène la création un jour d'un tribunal pénal international en Syrie, mais de qui se moque-t-on ? D'un étudiant de droit en première année ? Évidemment que non. Quant à la sous-traitance judiciaire de nos ressortissants en Irak, je crois qu'on a bien compris, les Irakiens ont expliqué à la France qu'ils n'étaient pas une poubelle à djihadistes européens, ils ont bien raison. Donc ça suffit tout ça. C'est vraiment un impératif aussi sécuritaire et puis surtout une question de responsabilité.
Dans cette réponse ou non-réponse de la France, Pierre Morel, cette question du rapatriement est éminemment politique, d'autant plus à quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle française.
Oui, je vais répondre à Marie Dosé. J'entends l'argument, les arguments, et je les fais miens. Sauf que j'ai vu, alors je tairai les noms parce que je ne veux pas mettre en cause tel ou tel haut fonctionnaire, que ce soit au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense et au ministère des Affaires étrangères, on m'a dit « ne t'occupe pas de ça ». On n'en veut pas. On ne veut pas régler ça. Je le dis très clairement. On ne veut pas, c'est dangereux et ça concerne très peu de personnes. Voilà ce qui m'a été dit. Et on m'a fortement conseillé de ne pas m'en occuper.
Pensez-vous que ça puisse être électoraliste ?
Ah, je pense que, je pense que c'est un sujet que le gouvernement français ferme les yeux parce qu'il ne veut pas voir. Et pourvu qu'elle reste là-bas, comme ça, au moins, il n'y a pas de problème en France.
Et ils n'arriveront pas à transformer ces enfants en enfants fantômes. D'abord parce qu'il y a des familles qui ne les lâcheront jamais. Vous ne pouvez pas demander à des grands-parents d'abandonner leurs enfants, ces enfants à leur sort. Ce n'est pas possible. Moi, je sais qu'ils se battront jusqu'au bout. Et nous, on se battra jusqu'au bout à leur côté. On n'a pas le droit de sacrifier la vie de son enfant. On n'a pas le droit de rajouter du traumatisme au traumatisme. Docteur, vous l'avez assez bien expliqué comme ça. Ces enfants sont en souffrance. On ne peut pas les laisser dans cette souffrance-là.
Et alors, avec quel levier d'action ? On parle donc de justice. Il y a eu plusieurs lettres, plusieurs appels d'ONG, de psychiatres. Qu'est-ce qui vous reste encore là comme ressort pour faire avancer la cause ?
Mais de toute façon, le gouvernement et l'Élysée seront un jour tous les deux acculés à rapatrier ces femmes et ces enfants. Enfin, je veux dire, on ne peut pas les laisser entre les mains d'un risque comme celui d'être récupéré par Daesh. Parce que Daesh a quand même appelé à deux reprises à ce que ces femmes et ces enfants soient libérés pour mieux être récupérés. On ne peut pas prendre ce risque ad vitam aeternam. Donc je pense vraiment que ces enfants, un jour ou l'autre, seront rapatriés avec leur mère. Mais le plus vite possible, parce qu'encore une fois, on est en train là d'ajouter du traumatisme au traumatisme.
Et en parlant de traumatisme, le mot de la fin vous revient, Nicolas Bosque, vous êtes psychiatre.
Moi, je pense que, en fait, ces enfants mettent aussi à mal tout le système public, qui a déjà des grosses difficultés. C'est des enfants qui touchent le monde de la prison, comme vous avez dit, Marie Dosé, l'hôpital, l'éducation nationale, la justice. C'est des secteurs qui sont déjà en grande souffrance, avec des difficultés de moyens, des difficultés de personnel, des difficultés aussi d'organisation entre les différentes institutions, et qu'aujourd'hui, c'est aussi ça l'une des raisons qui doit certainement faire peur à l'État de les rapatrier, c'est comment on va les prendre en charge après. Et là, il y a un très, très gros challenge.
Très gros challenge, mais c'est 6 classes de maternelle, 200 enfants. Allez, 7, pas plus.
Merci à tous les trois d'être venus en direct ici dans les studios de Radio France Internationale pour évoquer cette question. Je rappelle à nos auditeurs Pierre Morel à l'huissier, député de la Lozère, Marie Dosé, avocate, et docteur Nicolas Bosque, chef de clinique à l'hôpital Avicenne de Bobigny. APHP. C'est la fin de cette émission, à retrouver quand vous voulez sur notre site internet. Réalisation ce soir, Justine Mascaria. C'était une première pour elle. Toutes mes félicitations. Documentation, Gilles Perrault. Coordination, Florence Ponce, Patrick Adam. Et quant à moi, Adrien, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau débat. Restez à l'écoute de la Radio du Monde. L'information revient dans quelques secondes.